Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Avec la publication d'un cahier de Lerne sur Charles Maurras, l'occasion nous est donnée d'évoquer la figure de celui qui fut la conscience intellectuelle d'une droite extrême et fut aussi un maître à penser de plusieurs générations. Pour être sur Canal Académie, souvenons-nous qu'il fut élu le 9 juin 1938 à l'Académie française, reçu le 8 juin 1939 et fut radié de la même Académie française en 1945. Comme figure marquante du paysage intellectuel, il y eut après-guerre Jean-Paul Sartre et il y eut avant-guerre Charles Maurras. Pour nous en parler, donc, de ce cahier, des contributions et de Charles Maurras, nous avons la chance et le privilège de recevoir Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes normalien, énarque, historien de goût et de plume et haut fonctionnaire de métier et de vocation. Vous avez publié différentes biographies, biographie sur Lyautey, une autre excellente, magnifique, sur Peggy en 2008, et une dernière en 2010 sur Louis-Philippe, et nous vous avons reçu à Canal Académie pour ces trois biographies. En 1945, Maurras fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale pour intelligence avec l'ennemi. Depuis lors, il est tombé, lui et l'Action française, dans l'oubli honteux d'un passé politique que la France souhaite oublier et bannir de son histoire. Pourquoi ? Parce qu'il a été, avant la guerre, doctrinaire d'un antisémitisme d'État, qu'il a, durant la guerre, approuvé les mesures de Vichy, adhéré à la milice et lancé des attaques furieuses contre les résistants. Or, Maurras et l'Action française furent un mouvement, une doctrine, et un mouvement et une doctrine extrêmement importants depuis le début du XXe siècle, et ce, jusqu'en 1945. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, Arnaud Tessier, vous qui êtes historien des idées, des institutions et de la politique, pour y voir clair, loin des passions, et pour remettre Charles Maurras dans son temps et dans une certaine perspective. Première question, avant que d'aborder la question des idées de Charles Maurras, donnez-nous une idée, parce que je pense qu'on l'a oublié, de l'importance considérable de l'Action française, née en 1898, en pleine affaire Dreyfus, et de Charles Maurras avant la Seconde Guerre mondiale.
Je crois que l'importance intellectuelle de Maurras, qui était énorme, et notamment entre les deux guerres, elle a pris de l'essor avant la guerre de 1914, mais est devenue véritablement considérable entre les deux guerres, au point que sa pensée, son influence s'est exercée véritablement sur plusieurs générations qui ont ensuite se sont retrouvées pour beaucoup aux commandes de la France, pas seulement pendant la période de Vichy, mais sous la 4e République et sous la 5e République. On sait que, y compris dans la gauche française de la 5e République, de la 4e et de la 5e République, vous aviez des personnalités qui avaient été influencées par la pensée de Maurras. Donc une influence très profonde, due à la fois à ses livres, à ses articles dans l'Action française et à sa pensée. Je pense que ça s'explique par une situation assez simple en réalité, c'est qu'il y avait une sorte de divorce profond entre les élites françaises et le régime de la République tel qu'il fonctionnait. C'est-à-dire beaucoup d'élites, dont très nombreuses élites françaises, tout en adhérant aux valeurs républicaines qui s'étaient installées progressivement dans les esprits, était exaspéré par le mauvais fonctionnement du régime, par sa faiblesse structurelle, par l'instabilité ministérielle, par l'incapacité de la Troisième République à définir de grandes lignes de politique étrangère, et donc était fasciné un peu par ce débat intellectuel que Maurras a nourri sur la faiblesse des institutions républicaines auquel il opposait la stabilité de ce que pourrait être une construction monarchique. Si bien qu'on pouvait être fasciné par la pensée de Maurras sans être monarchiste, tout simplement parce que Maurras posait la question fondamentale du XXe siècle, quelles sont les bonnes institutions qu'il faut à la France, puisque visiblement, la façon dont nous conduisons notre exercice démocratique, notre aventure démocratique, n'est pas bonne. D'ailleurs, nous sommes faibles face aux ennemis, nous sommes faibles face à l'Allemagne. Donc, il a posé, d'une manière extrêmement nette et claire, la question des institutions. Et je pense qu'on pouvait être influencé par Maurras sans être nécessairement monarchiste ou antisémite.
Alors rappelez-nous, parce que là vous nous parlez des idées, donc de l'importance en creux qu'il a pu avoir face à une république qui n'était sans doute pas à la hauteur de l'idée que les républicains pouvaient se faire de la république. Mais rappelez-nous à la fois les tirages, les journaux, l'organisation, ce qu'a représenté cette Action française et Charles Maurras avant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire qu'il y a quelque chose qui est entre Jean-Paul Sartre, ce que sera Jean-Paul Sartre après la Deuxième Guerre mondiale, et le Parti communiste. Enfin, il y a quelque chose qui est une organisation gigantesque, d'une part, et un ascendant intellectuel très important.
Alors, je ne me souviens plus du tirage exact de l'Action française.
Mais alors, j'ai noté effectivement que l'Action française allait jusqu'à 100 000 exemplaires.
Voilà, un tirage important.
Jusqu'à 200 000, même en 1934, au moment des événements.
Et puis, il y avait toute une série de publications qui dépendaient du mouvement de l'Action française. Et l'Action française était un mouvement qui avait des adhérents en grand nombre. Et au-delà des adhérents, un certain nombre de personnalités ou de Français qui adhéraient intellectuellement, qui lisaient l'Action française. Par exemple, un exemple très connu, c'est que je connais bien, le maréchal Lyautey, qui était monarchiste, mais qui était agacé par un certain nombre d'articles dans l'Action française, le lisait plié d'une certaine manière pour pouvoir lire simplement, quand on lui apportait l'Action française, la chronique de Jacques Bainville. Mais il lisait l'Action française, un homme comme Lyautey, donc il y avait cette influence. Je pense que dans les mouvements de l'entre-deux-guerres, il faut distinguer trois types de mouvements. Il y a eu un mouvement vraiment de masse qui était les Croix de Feu, qui était un mouvement d'anciens combattants à l'origine, même si les Volontaires Nationaux, qui était une organisation de jeunesse, étaient plus structurés, plus militantes. Bon, les Croix de Feu, c'est un mouvement massif, du type comparable à ce que sera plus tard le Rassemblement du Peuple Français de Gaulle. Pas du tout un mouvement fasciste, un mouvement d'anciens combattants, un mouvement de protestation contre la faiblesse des institutions et qui n'était pas spécifiquement maurrassien. Il y avait tout un grand nombre de petites organisations de tendances intellectuelles et politiques différentes, les Francis de Marcel Bucard, il y avait des sympathisants du fascisme à l'italienne, il y avait des groupuscules, si j'ose dire, qui se sont retrouvés aussi le 6 février 1934, au moment de cette grande journée contestation, mais qui étaient vraiment infimes par leur influence et par leur nombre. Et puis il y avait l'Action française, qui était un peu entre les deux, c'est-à-dire pas un mouvement de masse comme les Croix de Feu, mais pas un groupuscule comme toutes ces ligues auxquelles on assimile généralement l'Action française. Parce que quand on lit beaucoup de choses sur les années 30 et sur le 6 février 1934, on a l'impression que tout le monde est un peu sur le même plan, que l'Action française, les micro-organisations fascisantes et les Croix de Feu, c'était la même chose. Non, c'était pas la même chose. Encore une fois, l'Action française, c'était une organisation importante par le nombre, mais surtout par la diffusion de ses idées. Ce n'était pas une organisation de masse, mais qui était beaucoup plus que ces petits groupes sans importance et qui souvent d'ailleurs étaient financés par des puissances étrangères.
Alors, il faut évoquer effectivement tous ces intellectuels qui, d'une manière ou d'une autre, soit sont passés, soit sont restés fidèles à l'Action française. Léon Daudet, évidemment, Bainville, Maritain, Bernanos. Enfin, donc il y a toute une génération intellectuelle très importante qui était acquise aux idées de l'Action française et de Charles Maurras.
Alors, il y a deux personnalités qui sont très évocatrices de ce point de vue-là. Il y a celle de Léon Daudet et celle de Jacques Bainville. Léon Daudet, le fils du grand écrivain Alphonse Daudet. Léon Daudet, c'est un versant de l'Action française, c'est-à-dire un homme sanguin, pouvant s'emporter assez violent, écrivant des articles souvent extrêmement chargés d'antisémitisme.
Ouais. On se souvient de ces articles, effectivement, ouais, au moment de l'élection de Bergson à l'Académie française.
Mais personnalité en même temps intéressante et complexe, parce que c'est le même homme qui va contribuer très directement au lancement littéraire de Marcel Proust. C'est-à-dire que Daudet, en même temps, écarter toute considération d'antisémitisme dans ses goûts littéraires, très étrange. Donc c'était vraiment la dimension un peu violente, antisémite de l'Action française qui se retrouvait chez Daudet, dimension d'ailleurs qu'il abandonnera totalement avec la guerre et lorsque les persécutions allemandes seront connues de manière plus importante, Daudet arrêtera complètement et se taira sur ce sujet. C'est assez étonnant. Et Bainville, c'est un autre versant, c'est ce qu'on peut appeler le versant présentable ou convenable de l'Action française. Bainville, c'est une personnalité qui a adhéré pleinement l'Action française, qui a été très proche de Maurras par l'amitié et par les idées, mais pour qui la dimension de l'antisémitisme, qui était très présente dans les publications de l'Action française, n'était pas un sujet véritable. Pour lui, ce n'était pas un sujet, il n'affichait pas un antisémitisme de combat, ça n'apparaît pas dans ses textes. Bainville était un homme qui n'était pas exposé à ces retours de violence qu'il y avait dans la presse. Car chez Maurras et dans l'Action française, il y a les deux dimensions. Il y a la prestance intellectuelle, la puissance de la pensée, et puis il y a l'homme de presse. L'homme de presse qui était attaqué, qui est attaqué par une sorte de jeu assez pervers et qui était capable d'être assez violent dans la formulation de ses idées. Bainville représente la face, comment dire, la plus épurée en quelque sorte de l'Action française.
Alors venons-en si vous le voulez, parce qu'effectivement dans ce cahier de Lerne, tous ces éléments-là sont évoqués, à la fois sa personnalité et puis bien évidemment ses idées. Venons-en à ses idées donc, et il me semble qu'il y a trois paradoxes que j'aimerais vous livrer pour que vous puissiez mieux nous les faire comprendre. Maurras fut donc un grand défenseur de l'Église, mais fut condamné en 1914, mais c'est resté secret, et de façon officielle en 1926, par le pape, et le pape invitant les catholiques à rompre avec l'Action française. Maurras fut monarchiste, défenseur de monarchie éternelle, etc. Mais le 11 février 1937, le duc de Guise, donc le prétendant au trône, a rompu avec l'Action française. Et troisième chose, Maurras était patriote, nationaliste, promoteur de ce fameux nationalisme intégral, mais fut condamné, comme on l'a dit au début, à l'indignité nationale. Alors, si on aborde ces trois paradoxes, Maurras et l'Église, y a-t-il un malentendu entre l'Église et l'Action française, ou est-ce que tout cela est la conséquence logique, si l'on veut, d'un catholicisme défendu plus pour la forme et pour les institutions que pour la foi chrétienne et la croyance en Dieu.
Le reproche qui était adressé à Maurras, et notamment de la part de Pie XI, qui avait aussi évidemment une intention politique dans cette affaire de la condamnation, je pense que ce qui était reproché à Maurras et à l'Action française, au fond, c'était d'être un obstacle ou de remettre en cause ce qui avait été un grand acte politique de l'Église à la fin du XIXe siècle, qui était le ralliement. C'est-à-dire, l'Église s'était ralliée à la République et avait très clairement indiqué aux catholiques français qu'il fallait accepter le régime républicain, qui était désormais le régime naturel de la France. Ça avait été très important sur le plan politique. Ça avait mis fin à la querelle entre l'Église et la République, parce qu'ensuite, il y avait eu l'épisode combiste et il y avait eu l'affaire des inventaires. Plus, évidemment, toutes sortes de péripéties dans les relations diplomatiques entre le Vatican et la République. Mais néanmoins, l'Action française était gênante de ce point de vue-là parce qu'elle maintenait un antagonisme institutionnel qui mettait en porte-à-faux l'Église catholique. Et puis, on reprochait au christianisme de Maurras d'être un christianisme un peu désincarné, si j'ose dire. Mmh. C'est-à-dire, l'Action française défendant l'Église ou ne mettant l'Église en valeur que sous l'angle de l'institution. Et faisant de ce fait de l'Église une institution, une force plutôt d'exclusion, et puis une construction un peu intellectuelle, ou excessivement intellectuelle. Donc je crois que tous ces éléments ont fait que l'influence de l'Action française était considérée comme contraire aux intérêts de l'Église, d'une manière beaucoup plus tempérée, mais tout de même, c'est un petit peu la même logique qui a présidé à la méfiance que l'Église pouvait avoir vis-à-vis d'autres courants politiques dans les années 20 et dans les années 30. L'Église ne voulait garder, Rome voulait garder, une sorte de maîtrise de cette image et de la politique religieuse, et l'Action française était devenue, de ce point de vue-là, gênante, surtout depuis que, après la guerre de 14, l'Action française, le journal et l'organisation étaient devenus beaucoup plus combative dans le style et dans le ton qu'elle ne l'était avant-guerre.
Il faut, me semble-t-il, remettre tout cela dans la perspective historique, donc ces assauts de la République contre l'Église, ce caractère de déboussolement des catholiques, qui ont trouvé, peut-être auprès de l'Action française et de Charles Maurras, un secours, un réconfort, un défenseur inespéré, qui peut-être a, dès le début, permis de comprendre ce malentendu entre l'Église, d'une part, et puis Charles Maurras, d'autre part.
Oui, puis ça renvoie aussi quand même à une interrogation sur la pensée religieuse de Maurras et sur ses véritables convictions religieuses, qui sont très discutées. Le christianisme de Maurras, on a beaucoup évoqué son positivisme, effectivement cette vision qui est plutôt institutionnaliste de l'Église. Et finalement, la question de la foi de Maurras n'a jamais véritablement été élucidée de manière très nette. Il y a d'ailleurs des aspects un peu mystérieux dans la personnalité de Maurras, et dans son parcours, et dans cette sorte d'obstination étrange qu'il a montrée pendant toute son existence.
Il faut se souvenir aussi, et peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, qu'à l'intérieur de l'Église, donc, il y a eu des cardinaux maurrassiens, il y a eu toute une théologie néo-thomiste maurrassienne qui s'est progressivement développée. On n'est pas juste dans le caractère du défenseur. Il y a eu une influence extrêmement forte à l'intérieur de l'Église, et qui a provoqué, c'est ce que nous disions pour cette rupture de 1926, des déchirements absolument gigantesques.
Ah oui, parce que l'influence de Rome sur les catholiques français était grande, et ça a créé effectivement une situation déchirante. Il y a eu des gens qui ont été obligés de retirer leur adhésion, de cesser de lire, de s'abonner à l'Action française, et pour certains, ça a été véritablement une blessure profonde, qui a duré plusieurs années. D'autres s'en sont accommodés, mais ça a porté quand même un coup non négligeable à l'influence, en partie à l'influence de l'Action française.
Alors venons-en, si vous voulez, à ce monarchisme, enfin à cette idée de la monarchie défendue par Charles Maurras, et qui donc n'a pas été repris, soutenu par ceux-là même qu'il était censé défendre, ou ceux-là même qui étaient censés considérer que Charles Maurras les défendait. Donc quel est le malentendu qui a pu exister entre, d'une part, les monarchistes, de famille, enfin le duc de Guise,
Comte de Paris.
Comte de Paris aussi, voilà, d'une part. Et puis Charles Maurras, d'autre part. Et quelles étaient les divergences idéologiques entre les deux conceptions de la monarchie ?
Bien, en fait, l'Action française a été très proche des prétendants pendant très longtemps. Et c'est le Comte de Paris qui, entre les deux guerres, donc le Comte de Paris qui était né en 1909, c'était donc un jeune homme entre les deux guerres. Et il a, au début, été tout à fait dans la ligne de l'Action française. Notamment, il était célébré par l'Action française au moment de ses noces à Palerme. Et ensuite, il a pris ses distances avec l'Action française, un petit peu pour des raisons analogues à celles de l'Église. Le comte de Paris était Henri comte de Paris, qui est mort maintenant il y a quelques années, était un personnage complexe, qui avait des intentions politiques et qui souhaitait redonner une nouvelle orientation à la cause monarchiste en France, d'une manière différente. On lui a reproché d'avoir plutôt favorisé l'intrigue que les idées, mais il a publié des ouvrages avant la guerre sur ses idées, sur la question sociale. Donc il voulait réorienter, il voulait soustraire en quelque sorte l'idée monarchique et l'éventuelle possibilité d'une restauration monarchique. Il voulait les soustraire à l'influence exclusive de l'Action française, dont il sentait qu'elle devenait trop vénéneuse, qu'elle était trop contestée, et la condamnation par le pape avait été un élément effectivement très important. Donc c'est une ligne que le comte de Paris, que le nouveau prétendant, a développée ensuite dans les années 30 et qui s'est écartée progressivement et ensuite très nettement de l'Action française, jusqu'à rompre avec le mouvement. Mais ça tient à la personnalité et au projet politique du comte de Paris, qui considérait qu'en réalité, la manière dont l'Action française procédait nuisait plus à la cause royaliste qu'elle ne la favorisait.
Donc l'Action française s'est retrouvée monarchiste sans prétendant qu'il soutenait, enfin, ou sans que le prétendant les soutienne, ce qui n'a pas été sans poser des problèmes.
C'est assez étrange d'ailleurs, parce que il y a une autre personnalité qu'on pourrait évoquer qui n'était pas d'Action française, qui s'appelle Charles Benoît, qui était une figure importante de la politique française, qui avait été député, diplomate, et qui était un homme de droite libérale, figure parlementaire importante de la Troisième République, qui, au moment où le comte de Paris s'éloignait de l'Action française, cet homme, Charles Benoît, est devenu influent auprès du comte de Paris. Lui est venu à la monarchie par des chemins différents de ceux de l'Action française. C'est parce que Charles Benoît était exaspéré, un peu comme l'était André Tardieu, était exaspéré par la faiblesse des institutions, par l'impossibilité de réformer la République. Il en finit par en conclure que la seule chance pour la France de retrouver une voie institutionnelle stable et durable, c'était la cause monarchique. Et on voit cet homme qui, sans passer du tout par le mouvement d'Action française, qui était un homme de droite, mais de droite modérée et libérale, qui va devenir le conseiller du comte de Paris, au moment où le comte de Paris, lui, s'écarte de l'Action française. Et alors l'Action française, c'est vrai, c'est un mouvement royaliste, sans roi, mais les circonstances vont se charger de dénouer cette ambiguïté, parce que, d'abord, il faut bien voir que à la fin du XIXe siècle, lorsque l'Action française a été créée, la cause monarchiste était encore très proche de ses origines, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1875, 1876, 1877, jusqu'à l'épreuve de force véritable des débuts de la Troisième République, l'hypothèse d'une restauration monarchique était crédible, plausible, même probable, qu'on vivait dans une Europe qui était une Europe monarchique, où la plupart des régimes étaient monarchiques. L'idée, en tout cas, d'une monarchie constitutionnelle était une idée tout à fait plausible. Alors, petit à petit, cette situation est restée en Europe pendant plusieurs décennies. Et donc, l'hypothèse d'une restauration monarchique a fini par s'affaiblir, parce que la République s'installait dans les esprits, petit à petit. Donc déjà, il y a une sorte de divorce qui s'est installé progressivement entre l'hypothèse d'une restauration monarchiste et puis la situation générale de la France, de la société française et puis même de l'Europe. Et puis l'événement majeur qui va, le contexte majeur des années 30, en fait, ça va être la question de la menace allemande, de la guerre qui se profile à nouveau après la victoire de 14, la guerre de 39 qui s'approche, le danger extérieur, puis il va y avoir la guerre, l'occupation. Tout ça va broyer, finalement, va broyer l'idée monarchiste qui va être définitivement et totalement laminée et ne va plus être portée que par une toute petite minorité, tandis que l'action française va souffrir d'un discrédit profond lié à la période de l'occupation.
Alors, venons-en au troisième paradoxe, qui est effectivement cette défense d'une France éternelle, ce nationalisme intégral que l'action française et Charles Maurras a porté. Et en même temps, vous parliez du choc de l'histoire, Maurras et l'action française ont été emportés, broyés par Vichy et par cette période de la guerre, alors même qu'ils condamnaient l'antisémitisme biologique et racial des Allemands au nom, et vous allez nous indiquer, parce qu'il y a un très bon article dans le Cahier de Lerne sur cela, au nom donc d'un antisémitisme d'État, d'une part, et que deuxièmement, Charles Maurras n'avait aucune sympathie particulière, ni pour les Allemands, d'une part, ni pour la personnalité d'Adolf Hitler, d'autre part. Alors comment, là aussi, comprendre ce ralliement à des idées qui ne sont pas complètement les leurs, et ce qui a emporté par là même et l'action française et le crédit de Charles Maurras?
Je crois que c'est un énorme malentendu, en fait, et qui explique beaucoup ce qui s'est passé sous l'occupation. On comprend difficilement ce qui s'est passé sous l'occupation si on ne comprend pas ce qui s'est passé précisément à propos de Maurras. Maurras était farouchement anti-allemand. Il a écrit pendant toute son existence des textes d'une violence contre l'Allemagne extrême, au point d'ailleurs que certains de ses amis politiques le lui reprochaient parfois. C'est-à-dire que ça allait au-delà d'une hostilité nationale. Il avait véritablement une sorte d'hostilité féroce pour la culture allemande, pour tout ce que l'Allemagne portait. Il considérait que c'était l'ennemi mortel pour la France. Et cela, il n'en a jamais démordu. Pendant l'occupation, il n'a pas été parmi les partisans de la collaboration. Il était un partisan de la Révolution nationale. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui relevait de la Révolution nationale, c'est ce qu'il appelait la divine surprise. La divine surprise, c'est que d'une, non pas la défaite ne lui a pas fait plaisir, mais que de la défaite, c'est de cela qu'il a parlé en fait. Il a dit que de cette défaite, par une divine surprise, pouvait sortir du moins un bien, c'est-à-dire le retour d'un certain nombre de valeurs que la République, selon lui, avait fait disparaître. Et donc, il a adhéré à ce qu'on a appelé la Révolution nationale, qui était une entreprise de révolution ou réforme intérieure mise en œuvre autour du maréchal Pétain par un certain nombre de personnalités qui étaient pour beaucoup influencées par l'action française, mais qui n'étaient pas les mêmes que celles qui prônaient la politique de collaboration, qui se sont retrouvées dans les mouvements de collaboration, les mouvements de collaboration parisiens. Par exemple, un homme comme Pierre Laval, qui était l'homme de la collaboration d'État, ou un homme comme l'amiral Darlan, c'était des hommes de la Troisième République. On disait même que Darlan était franc-maçon. Et il se moquait complètement de la Révolution nationale. Il considérait que c'était pour amuser la galerie, que c'était ces idéologues qui étaient autour du maréchal Pétain. Et eux, ils pensaient que le problème, c'était la collaboration avec l'Allemagne pour essayer d'obtenir des conditions de paix les moins pénibles possibles. Ils avaient fait ce choix politique dont on sait où il a conduit. Maurras, c'était tout autre chose. Et de même, il y avait deux antisémitismes. Il y avait un antisémitisme qui pouvait être inspiré par l'antisémitisme, le racisme biologique, effectivement, de la doctrine nazie. Et puis l'antisémitisme de Maurras, qui est un antisémitisme de société, c'est-à-dire qu'il considérait que les Juifs tenaient trop de place dans la société française. C'était une idée qu'il avait développée depuis longtemps, comme les protestants, d'ailleurs, comme les francs-maçons. Et il l'avait toujours dit. Alors, ce n'est pas plus plaisant que l'autre antisémitisme, mais on voit bien que c'était deux approches différentes. Il faut bien comprendre qu'on pouvait être pour la Révolution nationale, pour Pétain, et très, très anti-allemand. C'est après que les choses sont devenues quand même véritablement un peu scabreuses, lorsque la zone sud a été envahie, et lorsque finalement le régime de Pétain est devenu un état satellite pur et simple de l'Allemagne, que là, un certain nombre de personnalités qui avaient pu authentiquement se croire anti-allemandes, tout en adhérant à certains aspects de la politique de Vichy, aurait dû en tirer les conclusions finales. Mais, par exemple, il y avait dans la résistance, et dès le début, avant même les résistants du Parti communiste, il y avait dans la résistance des gens qui étaient maurrassiens, qui étaient plutôt antisémites, mais qui étaient d'un anti-germanisme féroce. Et il y a la fameuse liste Otto qui est intéressante. C'est Otto Abetz, en 1943, avait fait établir une liste des personnalités à arrêter en cas de débarquement anglo-américain en France, les personnalités suspectes qu'il fallait arrêter dans l'entourage du maréchal Pétain. Il y avait une liste cette liste qui avait été préparée par les autorités allemandes. Et quand on regarde les 10 ou 20 premiers noms, ce ne sont pas des figures de la République, de la Troisième République. Ce sont des proches de Pétain, plutôt maurrassiens et plutôt Révolution nationale, parce que les Allemands considéraient que ces gens étaient avant tout anti-allemands. Donc si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que Weygand était un peu antisémite et pour la Révolution nationale et violemment anti-allemand, par exemple, on ne comprend pas l'ambiguïté qui était celle de ce régime. Et Maurras a été pris dans cette ambiguïté. Ce n'est pas Brasillach, ce n'est pas quelqu'un qui a appelé au meurtre, mais cet antisémitisme social, il est devenu bien difficile ensuite de le distinguer de l'antisémitisme racial de l'Allemagne. Et puis évidemment, la guerre et la découverte des camps d'extermination, tout cela a été quelque chose qui a évidemment scellé toutes ces ambiguïtés d'une manière terrible.
Donc vous dites, et effectivement c'est la bonne façon de faire en tant qu'historien, il faut prendre le régime de Vichy, donc la collusion ou le rapprochement historique entre Maurras et les Maurrassiens et le régime de Vichy par le début, et donc bien faire cette distinction entre ces deux antisémitismes d'une part, et puis la collaboration d'une part, et la Révolution nationale d'autre part. Mais est-ce que vous ne considérez pas quand même que il y avait d'une part, à un moment donné, un point de non-retour que Maurras et les Maurrassiens ont dépassé d'eux-mêmes, d'une part? Et deuxièmement, est-ce que cette ambiguïté ou ces ambiguïtés-là étaient connues, assumées par ceux-là même qui effectivement étaient, et vous l'avez dit à propos de Maurras, farouchement anti-allemand, mais rallié à un régime qui était rallié à l'Allemagne d'une part, et deuxièmement, d'un antisémitisme différent de l'antisémitisme nazi, mais pour autant qui ont approuvé, parce que Maurras a approuvé toutes les mesures qui ont été celles du régime de Vichy.
Intellectuellement, Maurras aurait dû comprendre, comme l'a fait d'une certaine manière Léon Daudet, que je disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal, parce que Léon Daudet, lui, qui était un sanguin passionné, qui est beaucoup plus qu'un intellectuel, et qui n'avait pas ménagé les propos virulents antisémites avant la guerre, lui a mis en sourdine tout cela, parce qu'il a compris qu'il était en train de se passer quelque chose qui n'était pas du même ordre. Maurras n'a pas eu cette compréhension, en tout cas pas dans les mêmes conditions. On voit que des Maurrassiens ont été très tôt dans la résistance, je dirais même que parmi les premiers résistants, il y a eu beaucoup de Maurrassiens, parce que pour eux, il était impossible d'envisager une situation de compromission quelconque avec l'occupant allemand. Et Maurras n'a pas eu ce réflexe. Peut-être parce qu'il était âgé, parce qu'il était terriblement obstiné. Et puis je crois quand même qu'il avait accumulé au fil des ans, dans cette lutte extrêmement ardue, qui était la lutte d'idées, extrêmement violente, une violence dont il portait la responsabilité, mais dont il était aussi la victime quelquefois. Il a été en prison, enfin, à plusieurs reprises. Je crois que Maurras avait chargé en lui une telle haine de la République que cela a dû altérer sa lucidité et il n'a pas vu que des forces obscures et beaucoup plus puissantes étaient en jeu. En tout cas, il ne l'a pas vu suffisamment pendant cette guerre. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Beaucoup de gens qui n'étaient pas maurrassiens, beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait, y compris au centre, à gauche, chez les Républicains. Beaucoup de gens ont été égarés par cet effondrement prodigieux des institutions françaises, de la civilisation française, et par cette irruption de la barbarie chez nous, enfin dans notre... Je crois que... Il parlait beaucoup dans ses textes d'avant-guerre et de jeunesse, quand il critiquait l'attaquer l'Allemagne, il parlait toujours de la barbarie allemande, c'était toujours un de ses thèmes pour lui, et c'est un thème qu'il partageait avec Peggy, d'ailleurs, surtout quand Peggy commence à écrire des choses très dures à partir de 1905. Et donc ce thème de la barbarie. Et curieusement, on a le sentiment que pendant la guerre, il n'a pas pris la pleine mesure de ce que cette barbarie représentait dès lors qu'elle était mise au contact de la France, de ses institutions et de son âme fragile.
Parce qu'effectivement, comme vous le dites, et puis on terminera notre première partie là-dessus, comme vous le dites, des Maurrassiens se sont retrouvés partout.
Oui,
se retrouvaient à la fois du côté de Vichy, à la fois du côté de la Résistance, et même à Londres.
Oui, tout à fait.
Voilà,
tout
donc, à fait. Donc il y a eu un ralliement de Maurras au régime de Vichy, mais le maurrassisme, où les maurrassiens se sont retrouvés dans toutes les configurations possibles.
Et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient influencés par la pensée maurrassienne, sans être nécessairement d'Action française, qui se sont retrouvés aussi dans la résistance. Je suis certain, je sais que c'est très controversé parce qu'il n'y en a pas de preuves écrites pour toutes sortes de raisons, mais De Gaulle était très certainement un lecteur de Maurras avant la guerre. Ça ne veut pas dire que contrairement à son père qui était monarchiste, il a été adhérent de l'Action française du tout, mais l'influence de la pensée de Maurras et sa critique des institutions avait exercé une influence très forte sur une partie considérable des élites.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc juste après notre entretien avec Arnaud Tessier autour de ce Cahier de Lerne consacré à Charles Maurras.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Donc nous retrouvons Arnaud Tessier autour donc de ce Cahier de Lerne consacré à Charles Maurras. Et nous avons vu dans une première partie, pour essayer de brosser un portrait de Maurras et de l'action française avant la Seconde Guerre mondiale, l'importance et les différents thèmes de cette action française et de Charles Maurras. Je voudrais qu'on comprenne mieux, maintenant que tout ça nous semble très éloigné de nous, qu'on comprenne mieux à la fois ce formidable sentiment de puissance, d'influence, d'ascendant qu'a exercé l'action française et Charles Maurras sur les élites intellectuelles, sur le personnel politique pendant des années et des années, et cette impuissance politique, cette incapacité, même au moment du 6 février 1934, à prendre le pouvoir ou à influencer ou à renverser la gueuse, la République. Vous voyez, comment est-ce qu'on réussit à réconcilier cet ascendant sur les esprits et cette impuissance politique?
Il y a une phrase qu'on prête à De Gaulle, dont on dit qu'elle est apocryphe, mais je la croirais volontiers authentique, tellement elle est juste. On dit que De Gaulle aurait déclaré un jour que Maurras avait tellement raison qu'il en était devenu fou. C'est-à-dire, cette influence...
La phrase que vous citez dans votre article sur Jaurès et Maurras.
Ce qui fascinait, encore une fois, dans la pensée de Maurras, c'était qu'il posait avec clarté une critique des institutions et la question de l'incapacité de la France à bâtir un régime démocratique stable, durable, efficace. Il faut voir que la France, contrairement à tous les autres grands pays occidentaux, était à la recherche des bonnes institutions depuis la Révolution française. On avait expérimenté tous les régimes et la Troisième République était un régime qui paraissait bénéficier pour le coup d'une certaine durée, mais au prix de crises répétées. La crise boulangiste, l'affaire Dreyfus, la crise de la séparation de l'Église et de l'État. Le régime avait été en quelque sorte sauvé, et à quel prix? Par la victoire si coûteuse de 1918. Et puis, après 1918, de nouveau, crise culminant avec l'affaire du 6 février 1934. Donc, beaucoup de Français, et beaucoup de représentants des élites françaises, intellectuelles, les juristes, les écrivains, toute une partie de la bourgeoisie qui réfléchissait un peu, en tout cas à cette époque, se posait la question, mais comment se fait-il que la France ne parvienne pas, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement aux États-Unis, contrairement à d'autres pays anciens et chargés d'histoire, à avoir un régime démocratique normal, stable, avec des institutions qui fonctionnent, avec la capacité d'avoir une politique étrangère efficace et qui protège avec assurance les intérêts du pays? Donc Maurras posait cette question-là. Il disait, ça ne va pas. La France ne peut pas fonctionner, nous ne pouvons pas avoir de véritable politique étrangère. Parce qu'il disait, il apportait une réponse qui était, c'est parce que les institutions républicaines, la démocratie, est un mauvais système et qui convient particulièrement mal à la France. La France a besoin d'une monarchie, c'est le seul système qui convienne à ses mœurs, à son histoire, à ses traditions. Il faut un principe monarchique et il n'y a pas à en sortir. Donc, je pense qu'il y a d'une part la critique très aiguë et très, très impressionnante quand on lit qui a l'étangé, l'ordre et le désordre, les écrits de Maurras sur l'histoire française, son livre « Les princes des nuées », ce recueil d'articles. Il y a véritablement des analyses sur la politique et l'histoire française qui sont prodigieusement intelligentes et où il met à jour les faiblesses structurelles de notre aventure nationale et de notre aventure démocratique. Mais la réponse... Il va s'obstiner dans une réponse qui ferme la porte un peu à tout, parce que, à mesure qu'encore une fois que le temps passe, la perspective, la probabilité d'une restauration monarchique devient de plus en plus difficile. La France, comme disait Daniel Halévy, est devenue républicaine. Les institutions, en tout cas, sont admises. Et donc, il faut trouver une autre voie. C'est ce que Barrès, d'ailleurs, cherchera à lui indiquer. Il faut chercher une autre voie pour donner à la France le régime qui lui convient, un régime avec de l'autorité, avec de l'efficacité, mais dans un cadre républicain, parce que le cadre républicain, en quelque sorte, il n'est plus négociable. Et puis parce que, comme disait Péguy, la République, c'est notre royaume de France. Il y a une façon de concevoir la République, si elle renoue avec certaines valeurs, si elle porte l'histoire de France d'une certaine manière, si elle assure l'unité de la société et du pays, la République peut être notre monarchie rêvée. Et il est certain que cette voie-là, Maurras n'a jamais voulu en entendre parler. Il s'est enfermé dans un système. Autant ses analyses étaient prodigieuses d'intelligence et de pertinence, autant cet enfermement à l'intérieur de la cause purement monarchique était un peu suicidaire. Il s'est refermé dans sa coquille de ce point de vue-là. Et ça explique ce divorce entre une pensée profonde et pertinente à bien des égards. Je parle de la pensée sur les institutions, qui est essentiellement celle de ses livres, beaucoup plus que de ses articles d'ailleurs, et le réalisme de l'objectif politique.
Mais est-ce que donc cette puissance intellectuelle, cet ascendant d'une part, qui ne s'est jamais véritablement converti en pouvoir sur les institutions, en puissance effective, est-ce que cela ne vient pas, comme vous l'avez dit justement, de son obstination d'une part, de sa surdité à la fois personnelle et intellectuelle, et cette incapacité à peut-être évoluer en même temps que la France elle-même évoluer, ce qui fait que, d'une certaine façon, il s'est retrouvé à la fin seul, chrétien, enfin, catholique sans christianisme, royaliste sans roi et français sans France, enfin, si on va jusqu'au bout des trois points que nous avons indiqués.
Je me souviens d'un texte, qui s'appelait « Sans l'ombre des cyprès », qu'il avait rédigé, je crois, en prison, avant la guerre, lors d'un passage en prison avant la guerre. Et il avait écrit une phrase dont les termes exacts, je ne peux les reproduire, mais dont l'idée c'était « les choses sont vraies une fois pour toutes, de manière définitive et à jamais ». C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était un homme qui à l'origine n'était pas fait pour le combat politique. Il l'explique dans un très beau texte qui s'appelle « Les vergers sur la mer ». C'est un intellectuel qui n'est venu au royalisme que plus tard. Dans sa jeunesse, il était attiré par la civilisation méditerranéenne, par la culture, par la littérature, par l'écriture. Et un jour, il a compris, ou il a cru comprendre, qu'il avait une cause à défendre. C'était au moment de l'affaire Dreyfus. Et il s'est dédié entièrement à cette cause, et plus rien d'autre ne devait exister. Et je pense qu'il a un peu contraint sa nature de cette manière, qui était peut-être plus portée vers des choses de l'esprit, ou vers une certaine liberté intellectuel, il s'est contraint lui-même parce qu'il avait ce rôle à jouer et qu'il s'est enfermé dans ce rôle et qu'il pour cela il ne devait pas douter. Et effectivement, le parallèle que vous faites avec sa sourdité est très frappant parce qu'il y a une sorte de sourdité volontaire de Maurras vis-à-vis des influences extérieures.
Donc rappelons pour la petite histoire qu'effectivement, très jeune, il a été frappé de surdité physique, qui a été un drame.
Qui était total.
Pour lui, voilà.
Et il avait beaucoup de mal à communiquer, c'est le cas de le dire. Mais il me fait penser, curieusement, sur ce plan, à cause de cette posture, à quelqu'un qu'il n'aimait pas. Et le rapprochement que je vais faire va déplaire certainement à beaucoup de gens, mais il y a quelque chose de Chateaubriand chez lui, du Chateaubriand vieillissant, qui ne veut plus rien entendre et qui s'enferme dans une sorte de monologue. Sauf que le monologue de Chateaubriand, Maurras lui reprochera d'ailleurs, est un monologue tourné vers une sorte de passé un peu morbide. Tandis que Maurras voulait continuer de penser que les choses pourraient aller vers un mieux qu'il souhaitait et que la vérité à laquelle il croyait avec une sorte de fanatisme intellectuel assez étrange, cette vérité finirait par s'imposer.
Alors il y a à la fois donc surdité et à la fois division. Je cite ce très beau texte de Raymond Aron donc, qui est dans le cahier de Lerne, qui s'appelle « Maurrasisme et gaullisme » qui a été écrit en 1964. Il faut toujours mettre les dates, c'est pas toujours très clair dans le cahier de Lerne, mais en 1964, et où il dit, Raymond Aron, Maurras dénonçait la République, mais aussi et surtout les minorités juifs, francs-maçons, protestants, qu'il décrivait comme étrangères à la France, invisibles et puissantes. L'unité du pays était pour lui l'objectif suprême. Il n'en a pas moins toute sa vie et, jusqu'au dernier jour, nourri la haine que des Français vouaient à d'autres Français. Mais le passé de la France, il ne l'acceptait pas tout entier. Les périodes, les œuvres, les idéaux qui ne répondaient pas à son système politique, voir ses goûts esthétiques, il les condamnait sans hésitation. La France éternelle était une France dépossédée d'une partie d'elle-même.
Oui, c'est-à-dire, et c'est là la fracture, à la fois avec Barrès et avec le gaullisme, c'est effectivement cette idée que l'unité selon Maurras, c'est la conception de la grandeur française et du destin français tel que Maurras le concevait, et comportait des exclusives très fortes. Les protestants, les francs-maçons et surtout les juifs. c'est cet antisémitisme qui était toujours très présent, non seulement dans les articles de presse de Maurras, mais même dans ses écrits théoriques. Hein. Il est bien rare qu'on ne trouve pas à un point ou à un autre des réflexions de ce type. Cet antisémitisme qui prend ses racines dans son engagement dans l'affaire Dreyfus, où là aussi il a voulu à tout prix avoir raison à jamais sur cette affaire.
Enfin, Dreyfus qu'il retrouvera, si l'on veut, en 1945, quand il a été condamné, il se serait décrié « c'est la revanche de Dreyfus ».
Alors, d'une certaine manière, il n'avait pas raison, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Il a été condamné, en fait, ce n'était pas un collaborateur. Et en fait, il a été condamné non pas tant pour des faits de collaboration que pour ce qu'il représentait. Pour ce qu'il représentait, parce que Maurras, de fait, d'abord avait intellectuellement nourri en partie la Révolution nationale, et il symbolisait, pour beaucoup de gens à l'issue de la guerre, cette logique, cette vision de la société avec ses exclusions, cette atteinte portée finalement à l'unité morale de la France. Il portait tout cela, et il était condamné pour tout cela, en fait, pour tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait représenté avant la guerre. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il était condamné pour ce qu'il était, pour les idées qu'il avait défendues, plus encore d'ailleurs que pour l'antisémitisme, pour les idées qu'il avait défendues, pour son hostilité envers la République, parce qu'en 1945, on voulait restaurer la dignité de la République et dans sa plénitude. Et Maurras, c'est vraiment le Maurras dans sa globalité qui a été condamné plus qu'un collaborateur. Là, c'est une ambiguïté des procès de la Libération.
Alors, terminons par le très bel article que vous faites à l'intérieur de ce cahier de Lerne sur Maurras et Barrès. Vous rappelez effectivement l'amitié un peu rugueuse qui a toujours existé entre Maurras et Barrès, le désir de Maurras de rallier à lui Barrès, et vous dites bien deux choses, et je voudrais que vous nous expliquiez mieux ce qu'il en est. D'une part, le caractère de rempart qu'a joué, de protection, de limitation, de l'hubris peut-être, de Maurras, qu'a joué Barrès à l'égard de Maurras, d'une part. Et deuxièmement, cette différence entre une France séparée, limitée, non réconciliée avec elle-même, qui était celle de Maurras, et une France réconciliée, qui était celle de Barrès, et surtout après la Première Guerre mondiale, avec toutes les familles politiques, avec la République, avec sa monarchie, etc. Expliquez-nous mieux, effectivement, ce dialogue, d'une part, entre les deux, et puis ces deux conceptions d'un nationalisme qui n'est finalement pas du tout le même.
Oui, Barrès et Maurras se sont connus assez tôt. Barrès était un peu plus âgé que Maurras, il avait quelques années de plus. Et il était nimbé d'un prestige quand Maurras l'a lu et connu. À la fin du XIXe siècle, Barrès était nimbé d'un prestige littéraire déjà très grand. Il faut voir qu'autant l'influence de Maurras était grande sur le plan intellectuel, autant l'influence de Barrès sur le plan littéraire, et sa postérité littéraire, ont été immenses, que ce soit Aragon, Malraux, Monterland, les épigones ont été innombrables, et l'influence de Barrès sur toute la littérature française du 1er XXe siècle a été absolument énorme. Donc Barrès était un personnage, oui, Mauriac.
Et Barrès était Mauriac qui l'a lancé.
Barrès était un personnage considérable sur le plan littéraire, et ils se sont retrouvés dans un combat commun au moment de l'affaire Dreyfus, et dans le combat nationaliste. Donc, dans le combat nationaliste, pour Barrès, la figure monarchique était secondaire. Barrès considérait que les institutions devaient être réformées, que les institutions républicaines soient plus fortes, que l'exécutif soit fort, qu'il y ait une autorité dans l'État. Il critiquait surtout les faiblesses structurelles de la République, mais il ne considérait pas que la monarchie soit une condition nécessaire. De surcroît, il avait une vision de l'histoire tout à fait différente de celle de Maurras, parce que pour lui, finalement, l'histoire de France, il la prenait tout entière. Il aimait l'énergie. Il disait que Napoléon avait été un professeur d'énergie. Barrès aimait beaucoup Napoléon, alors que Maurras avait une grande hostilité intellectuelle, en tout cas pour Napoléon et le Premier Empire, pour la centralisation, pour l'appareil administratif, pour le guerrier Napoléon, qu'il voyait comme un continuateur de la Révolution. Pour Barrès, c'était secondaire. Barrès considérait que Napoléon était un professeur d'énergie. Il disait que Robespierre aussi, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de l'admiration pour Robespierre, le comité de salut public et pour la France en armes. Donc, il aimait les rois, mais il aimait aussi les révolutionnaires. Il aimait la France dans son unité, dans sa continuité. Il prenait tout. Il prenait tout, tout à fait comme Péguy, d'ailleurs. Et il est intéressant de voir que si Maurras et Péguy se sont un peu cherchés pour plus pour s'affronter avec un certain respect que pour autre chose, Barrès et Péguy ont été assez liés à un moment de leur existence, à un moment assez décisif. Barrès, de même, après avoir été anti-Dreyfusard et avoir aussi manifesté des sentiments antisémites assez prononcés, s'est écarté ensuite, notamment au moment de la guerre de 14, de cette idée. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les traits éternels de la France » et il a ensuite finalement fait presque amende honorable sur l'affaire Dreyfus et sur les divisions qu'elle avait entraînées. Et Barrès considérait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'il fallait réformer la République, qu'il y avait des figures qui étaient capables de porter ces réformes, comme Raymond Poincaré, et que l'action française devait, au lieu de continuer à se braquer dans une hostilité de principe à la République, aider ce qu'on appelait les princes lorrains à fortifier la République, plutôt qu'à l'affaiblir. Et tout cela, ça nourrit le dialogue entre Barrès et Maurras, qui est essentiellement, très largement épistolaire, qui est un très beau dialogue, qui va durer plusieurs décennies, où ils essaient de se convaincre mutuellement, Maurras cherchant vraiment avec énergie à faire entraîner Barrès dans le camp monarchiste à l'action française, mais n'y parvenant jamais, et toujours pour les mêmes raisons, mais tout cela dans un respect, une amitié mutuelle très forte. Ils avaient deux façons d'aimer de leur pays différentes, et celle de Barrès était incontestablement à la plus proche de celle de Péguy, et puis inspira très certainement la vision qu'en avait le général de Gaulle.
Et alors, avant d'arriver au général de Gaulle, qui est effectivement le point de réconciliation, dites-vous, des deux, il est clair que la mort de Barrès, qui est mort relativement jeune, enfin à 60 ans,
oui, 61 ans,
a peut-être, dites-vous, lâché, enfin permis effectivement à Maurras de ne plus avoir cet alter ego, cette personnalité qui peut-être retenait un tout petit peu Maurras de ses propres penchants, et qui l'a lâché peut-être vers... cette cécité, cette surdité, cette obstination dont nous avons parlé préalablement.
Oui, c'est une hypothèse que je forme, que la mort de Barrès, qui a beaucoup heurté Maurras, Maurras est un attachement amical, véritable, et puis une considération intellectuelle et littéraire très forte. Je pense qu'effectivement, Barrès jouait auprès de Maurras, même si Maurras ne voulait pas l'admettre et que leurs joutes intellectuelles demeuraient toujours aussi intransigeantes, je crois que Barrès exerçait une influence indirect en tout cas sur Maurras. Il représentait quand même le fait que Barrès reste sur cette position, qu'on puisse être Barrès et rester républicain, c'était une sorte de défi pour la pensée maurrassienne. Et on voit qu'ils ont été d'ailleurs tous les deux, à un moment donné, très proches, par exemple, dans l'admiration qu'ils ont pu porter à Clémenceau dès lors qu'il est devenu le père de la victoire, alors que Clémenceau n'avait rien véritablement avant-guerre pour plaire ni à Barrès ni à Maurras. Donc on voit bien qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, qui était d'essayer de réconcilier la République avec la grande tradition monarchique, tentative d'essayer de donner à la démocratie française toutes les sources, les bases qui lui venaient de l'histoire pour faire quelque chose de solide et de véritablement durable, pour créer, comme disait Maurras, de la grandeur qui dure. Et cette obstination de Barrès, finalement, était un défi permanent pour la pensée maurrassienne. Et la mort de Barrès a fait disparaître ce défi intellectuel, qui curieusement n'existait pas dans les mêmes conditions avec Bainville. Pourquoi ? Ben sans doute parce que Barrès, qui était encore une fois un peu plus âgé que Maurras,
qui avait 6 ans de plus que lui,
il avait en plus l'expérience, il avait été parlementaire, il avait participé étroitement à la vie politique de la Troisième République, il avait été dans le cloaque, comme il disait, il s'était immergé dans la matière humaine de la République parlementaire, et ça lui donnait peut-être une autorité un peu plus grande. Il avait vu de près ce dont il parlait.
Et puis il avait un prestige propre, voilà. Enfin, qui était indépendant de Maurras.
Un prestige littéraire, oui. Encore une fois, considérable. Enfin, la paternité littéraire de Barrès est considérable. Aragon, jusqu'à son dernier souffle, restera fidèle à l'image de Barrès et à l'influence qu'il avait exercée sur lui. Donc, il est certain que la mort de Barrès, Maurras l'a-t-il senti ? En tout cas, Maurras lui a rendu hommage à plusieurs reprises, et n'a jamais cessé de rester fidèle à cette vieille amitié, malgré la discordance qui les opposait, parce qu'il considérait que Barrès était un acteur majeur de l'unité de la grandeur française, comme Anatole France d'ailleurs, puisque Maurras, et Anatole France est encore plus étonnant, puisque Anatole France était politiquement alors à l'opposé de Maurras, Anatole France était, par sa maîtrise de la langue française, par son prestige intellectuel, par sa façon de concevoir l'histoire, était un objet d'admiration pour Maurras.
Alors, finissons par la fin de votre article. Vous dites que cette opposition entre Maurras et Barrès doit être plutôt comprise comme un dialogue, et que ce dialogue, donc, entre le sentiment large, qui est celui de Barrès, le souci de réconciliation, et puis d'autre part, chez Maurras, cette exclusive, cette limitation, cette raison, va trouver sa réconciliation, si l'on veut, dans le dialogue que le général de Gaulle va entretenir avec lui-même et dans les institutions de la Ve République. Donc pour vous, et on finira là-dessus, en quoi est-ce que la Ve République, et je tiens à préciser qu'effectivement vous venez de faire paraître un livre sur les institutions de la Ve République, que la Ve République serait la réconciliation de Barrès d'une part et de Maurras d'autre part dans la personne et dans la conception politique du général de Gaulle?
C'est-à-dire que la question que pose Maurras dans toute son œuvre et qui est un peu noyée sous le discours monarchiste, sous le discours polémique, l'antisémitisme, la question fondamentale qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de dire la République, en fait, elle est incapable de gouverner, elle est incapable d'avoir une politique étrangère, la France ne peut pas fonctionner en République avec un régime démocratique. Ce n'est pas le régime qui lui convient. C'est la grande question que pose Maurras, et à l'appui de cette question et de l'affirmation qu'elle porte, il apporte des éléments réels, c'est-à-dire l'instabilité constitutionnelle française, l'instabilité politique, les guerres provoquées ou perdues ou gagnées, même engagées dans des conditions épouvantables. Enfin, le dossier contre la République que Maurras a réuni est important, au-delà des idées de Maurras sur la monarchie. Et Barrès, lui, dit si c'est possible, c'est possible. Et c'est possible notamment après la guerre de 14, si on réforme la République, si on fait... Et finalement, il y a une sorte de dialogue silencieux qui s'est noué au XXe siècle, peut-être entre De Gaulle, qui lisait, alors qui avait certainement lu Maurras, et qui était un lecteur avoué, connu et avéré de Barrès.
Je pense, et de Péguy aussi.
Et de Péguy. Je pense qu'il y a une sorte de dialogue silencieux entre De Gaulle et la critique maurrassienne, et De Gaulle voulant, au fond de lui-même, et porté en plus par l'expérience de la guerre, voulant montrer que si la chose est possible, on peut bâtir une monarchie républicaine, on peut bâtir un système avec une autorité, une grandeur qui dure, sans ressusciter Louis XIV et la grandeur qui dure, on peut donner à la France des institutions républicaines et démocratiques qui, en même temps, lui permettent d'assumer son destin et d'assumer cette histoire, mais qu'il faut l'assumer tout entière. Et donc la Ve République telle que de Gaulle l'a conçue, je pense qu'elle est une sorte de réponse à ce dialogue silencieux et qu'elle s'inscrit dans la continuité du débat qui s'était noué entre Maurras et Barrès. Je le pense sérieusement. Cela étant, la réponse de la Ve République, c'est la Ve République telle que de Gaulle l'imaginait. Ensuite, la Ve République a évolué de manière différente et Maurras se relèverait peut-être d'entre les morts pour lui dire... Vous voyez que je n'avais pas tort. Donc peut-être que ce débat silencieux reprendra un jour. Mais il y a quelque chose d'assez émouvant quand même dans ces destins intellectuels et dans cette façon très sincère que des hommes avec des qualités et des défauts différents ont eu cette volonté très sincère de trouver quand même le régime qui pouvait permettre à la France d'assumer son destin séculaire, millénaire, et dans un cadre qui lui convienne, avec les libertés et avec... une maturité démocratique qu'elle a toujours eu du mal à acquérir.
Arnaud Tessier, merci. Donc je renvoie nos auditeurs à ce cahier de l'herbe donc, consacré à Charles Maurras, et en particulier, parce que nous en avons parlé, à votre article donc, qui s'appelle « Et Barrès », dans ce dialogue entre Barrès d'une part et Maurras d'autre part. Et puis sans doute aurons-nous l'occasion de nous revoir pour développer ces questions de Ve République qui sont la réconciliation, dites-vous, entre cette monarchie républicaine, à la fois maurrassienne dans la critique de la République et à la fois barrésienne dans la conciliation possible de la France avec la République et avec les institutions de la monarchie. Oui, vous voulez rajouter un mot?
Oui, je veux dire, dans ce cahier de Lerne, dont on doit Stéphane Jocantier, Axel Tisserand, la conception d'ensemble, on trouve beaucoup d'éléments, de textes émanant de personnalités très variées, qui vont de Marcel Proust à André Fontaine, qui montre véritablement la fascination qu'a exercé ce personnage et l'importance intellectuelle qu'il a occupée, qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui et qu'il faut vraiment, je trouve que c'est le grand mérite de ce cahier de Lerne, c'est de montrer que l'histoire n'est pas simple et qu'il ne faut pas la lire à rebours. Comme disait Pierre Gaxotte, il ne faut pas partir de 1789 pour refaire l'histoire de France en remontant.
Voilà, donc ce cahier de Lerne pour tous les lecteurs permettra de mieux saisir cette ampleur du phénomène Maurras et le rayonnement qui a été effectivement le sien pour éviter, comme vous le dites, des anachronismes qui laisseraient à supposer que l'indignité nationale qui fut celle de Maurras fait tomber dans les oubliettes toute l'influence et toute l'importance de l'Action française d'une part et de Charles Maurras d'autre part. Arnaud Tessier, merci.
Merci.